Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International comme chaque après-midi pour vous parler de cette planète qui s'appelle la planète football, en tout cas pour nous. Quelle sera l'affiche de la finale de la Ligue des Champions 2021? Qui pourra affronter Manchester City à Istanbul en fin de mois de mai? Chelsea, l'équipe de Londres, à l'avantage après le match aller, ou bien le Real Madrid, fort de ses 13 victoires dans cette compétition européenne. Les hommes de Zizou retrouveront Ramos et Hazard. Cela sera-t-il suffisant à Londres face à la jeunesse insolente des Blues? Des citizens euphoriques, des Parisiens accablés. Il n'y a pas eu de miracle hier soir à Manchester. Le PSG a été éliminé en perdant son match comme à l'aller face à une équipe très disciplinée et à son buteur vedette, Riyad Mahrez, l'enfant de Sarcelles. Qu'a-t-il manqué au PSG? Des détails, des nerfs ou plus que ça? 22 sélections africaines privées de leur stade. La liste des pelouses homologuées par la CAF a mis en évidence les carences de nombreux pays, et pas des moindres. Les lions indomptables, mais aussi les étalons, les fauves d'Ubangi ou encore le MENA ne pourront jouer à domicile. Que faut-il faire? Que faut-il faire, monsieur Philippe? Bonjour.
Bonjour, madame Annie.
Vous faites de la plomberie, mais vous pouvez peut-être faire du béton.
Ce sont les lions, hein, pas les lions indomptables.
Pardon, oui, les lions, de Sénégal, la Teranga, ouais. Même, parfois, dit-on aussi. Oui, les lions indomptables, ils ont beaucoup de stades.
Beaucoup de stades, pour maintenant.
Oui, voilà, maintenant. Enfin. C'est récent. Bonjour, David Ortolari.
Bonjour, Annie, bonjour à tous.
Bonjour Dominique Sévrac.
Bonjour Annie, moi je sais que vous êtes en finale chaque année. Vous êtes notre finaliste de cœur chaque année.
Mais nous sommes ensemble en finale, c'est ça l'esprit Radio Foot International. Pierre Guérin m'a aidé à préparer l'émission ainsi que David Finzel. Laurent Salerno est aux commandes. Radio Foot, c'est parti. Le Real Madrid sera-t-il victime d'un coup de Trafalgar ce soir à Stamford Bridge avec Thomas Tuchel en vice-amiral Nelson pour mettre en déroute des meringués sur leur pelouse londonienne, pas loin de Trafalgar Square? À parier que ce soir, les deux équipes mettront toutes leurs forces dans la bataille pour décrocher une place en finale de la Ligue des Champions. Aujourd'hui, hein, vous n'avez pas oublié, c'est le 5 mai et en France, on célèbre le bicentenaire de la disparition ou de la mort de l'empereur, celui qui fut un jour empereur de France, à savoir Napoléon Bonaparte, d'où ces quelques références. Pour l'instant, au coup d'envoi, les Blues sont avantagés. Ils ont arraché un match nul à Madrid, 1-1. Hier, on a vu que l'avantage, ça aide. Mais est-ce que avec le Real en face, les statistiques sont soudain moins convaincantes quand il y a surtout en vue une 14e coupe, une 17e finale? Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe? Est-ce que tout d'un coup, le Real rebat les cartes?
Ah, le Real qui était médiocre au match aller peut absolument rebattre les cartes parce que on sait que eux sont construits pour être capables de faire le match qu'il faut lors du match retour. Et du coup, imperceptiblement, je me demande si Chelsea n'a pas manqué sa chance au match aller. On le saura ce soir, bien sûr, mais j'ai cette crainte pour eux parce qu'ils étaient les plus forts au match aller et ils l'ont pas matérialisé.
Dominique, Zinedine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, n'a été éliminé qu'une seule fois en 15 confrontations à élimination directe en Ligue des Champions.
Bah, ça sent pas Waterloo pour lui. Hein. A priori,
ça serait Austerlitz. Donc,
il a la recette. Hein. Il a quand même 3 Ligue des Champions de suite.
C'est le 2 décembre, Austerlitz, ça n'a rien à voir. Rien à voir au niveau date. Ça ne colle pas du tout ton exemple.
Il a la potion, il a quelque chose. Moi, je pense qu'en plus, un partout, c'est un score très difficile à gérer pour l'équipe qui reçoit au retour. Elle est qualifiée au coup d'envoi.
Faut peut-être pas gérer, donc.
Chelsea est qualifiée. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On attaque, on n'attaque pas. Si tu attaques, tu te découvres un peu avec le Real. Ça peut être clinique avec un Karim Benzema qui a l'air en feu. si tu n'attaques pas, bah tu te poses à quand même à prendre un but aussi. Donc c'est un score un peu compliqué. Autant City n'avait pas forcément à faire le jeu contre le Paris Saint-Germain parce qu'ils étaient vraiment en avance. Autant là, on a les jambes un peu écartelées dans le cas de Chelsea. Donc je pense que ça va être un match très intéressant, très ouvert. Il y a toujours un peu une surprise en finale. Il y a toujours un candidat surprise qu'on n'a pas vu venir. Alors ça serait plutôt Chelsea. Mais là, franchement, dans cette saison, c'est très compliqué de lire à l'avance les choses. Donc
les Parisiens sont supporters de Chelsea.
Oh ben, en tout cas, moi, ça ne me dérangerait pas du tout que Thomas Tuchel soit une deuxième année de suite en finale. C'est un bon entraîneur qui était plus fait pour Paris. Il y avait quelque chose qui s'était cassé. Mais c'est un super entraîneur. Il est quand même en contact régulier avec le Bayern de Munich. David pourra nous le dire. Il plaît énormément à Rummenigge qui va passer la main. Mais ils ont déjà fait un autre choix. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui reste dans le décor.
C'est un futur.
Voilà. Mmh. C'est un disciple de Guardiola qui est en finale de Ligue des Champions. Donc oui, c'est un super entraîneur. Mais Zidane, on l'adore aussi en France. Hein, donc...
Voilà. Il y a un détail peut-être, David Lortolari, c'est que Zidane n'a jamais battu Thomas Tuchel jusqu'à présent. Bon, il se rencontre pas tous les quatre matins, mais il l'a jamais battu.
Oui, alors il y a un piège pour Chelsea. Dominique a pillé sans vergogne avec beaucoup d'élégance tous mes arguments, mais il y a un piège pour Chelsea, c'est que je crois que sur les 24 matchs que Tuchel a dirigé avec Chelsea depuis janvier, depuis qu'il est arrivé, je crois qu'il y en a 18 où ils n'ont pas encaissé de but. Donc l'entraîneur pourrait se dire, ma force c'est la défense. Edouard, on est à 0-0, on part de là.
Un lion de la Teranga dans
Edouard
les buts.
Mendy n'est pas le moindre des arguments pour la défense, effectivement. Mais Dominique a entièrement raison. C'est-à-dire que si vous jouez là-dessus et que le Real vous fait une action dans le match et que ça finit par 0-1, vous allez avoir beaucoup de regrets. Donc, du point de vue de Chelsea, il va devoir agir différemment. Moi, je suis assez d'accord avec Philippe. Il y a quand même une ossature au Real, au-delà de Zinedine Zidane, qui est une espèce de magicien. Il y a Courtois dans les buts, c'est super. Ramos qui revient, c'est forcément un argument, même si peut-être...
Même sans Varane.
Voilà, il sera pas très très en jambes. Devant lui, Kroos, c'est un magicien aussi. Et puis Benzema, vous avez cette espèce de colonne vertébrale sur laquelle le Real peut compter. En plus de ça, on le sait, ces messieurs l'ont dit aussi, avec Zidane, vous savez très bien que les Casemiro, que les Modric, que les joueurs qui pourraient éventuellement sortir du banc, aussi Vinicius par exemple, seront au top. Donc pour Tuchel, impossible de dire on est à 0-0, on reste à 0-0 pendant 90 minutes. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est intéressant, parce que Chelsea, encore une fois, j'insiste, a quand même bâti sa réussite depuis le
récente.
Début janvier sur cette solidité, cette compacité, ce sera forcément différent ce soir.
Bah, il vaut mieux parce que Werner, il met jamais de but. Hein, donc
ça lui arrive quand même. Moins que vous auriez espéré sans doute, mais ça lui arrive
lui,
quand même.
Ou la femme de Thiago Silva.
Ah oui, elle l'a bien pris.
Isabella, ouais. Elle aimerait que Thiago Werner marque. Est-ce qu'on pourrait résumer ce match aussi en gros trait, bien sûr, en grossissant le trait, Philippe, mais entre l'expérience et la jeunesse. L'expérience, évidemment, le Real. Alors, c'est trois coupes, mais surtout, il y en a 13, mais trois remportées récemment avec Zidane, avec certains de ses joueurs, donc qui connaissent quand même très bien cette compétition. Et puis de l'autre, alors évidemment, Werner, Kai Havertz, Mason Mount et d'autres comme ça, jeunes. Alors, avec quelques grognards, on a Thiago Silva, on a aussi d'autres joueurs qui ont quand même de l'expérience. Est-ce que vous résumeriez ce match à ça?
Oui, mais c'est pas une opposition... comment dirais-je?
Oui, c'est pas un balai.
C'est pas absolu, c'est pas une opposition absolue entre des très très jeunes qui débuteraient à ce niveau-là et d'autres. Non, le club d'abord a l'expérience. Chelsea a une grande expérience européenne de toute cette décennie. Les joueurs, il y en a.
Ils ont remporté qu'une seule fois la Coupe quand même.
Ouais, non, ils ont gagné l'Europa League aussi. Vous inquiétez pas pour eux. Hein. Ils sont en demi-finale, en machin. Ils sont jamais loin. Ils sont toujours présents. Ils ont cette expérience européenne et pas mal d'entre ces joueurs ont cette expérience, donc il faut pas être non plus catégorique, mais évidemment le Real sur un match un peu nerveux, on a vu hier soir combien les nerfs comptaient dans ce genre d'opposition. Ah oui. Il est évident que le Real dans ce match-là ne tremblera pas, il saura faire. Il faudra que Chelsea soit très bon, aussi bon qu'au match aller. Ce qui n'est pas facile dans les circonstances, oui. Pour les raisons qui ont été évoquées par mes deux camarades.
Ah bah bon, la gestion émotionnelle, effectivement, du Real Madrid, en général, je ne vois pas Casemiro prendre un rouge ce soir. Ça me paraît très, très étonnant.
Ils sont plutôt calmes. Alors, on parle de grenière dans cette équipe, mais il y en a qu'un qu'on a nommé aujourd'hui, nous, l'impérial grenadier, n'est-ce pas? Et c'est évidemment un champion du monde, le roi du grattage de ballon. On ne sait pas si ça se dit, mais on le dit. N'Golo Kanté, dont Thomas Tuchel a quand même, une fois encore, eh bien, dit du bien.
Top guy. He is the guy you need to win trophies, obviously.
C'est un top joueur, c'est le joueur dont vous avez besoin pour gagner des trophées, et c'est pour ça que je suis tellement content qu'il soit avec nous. J'ai toujours rêvé d'avoir un tel joueur dans mon équipe quand j'entraînais d'autres clubs. C'est vrai, il a gagné tous les trophées, à l'exception de la Ligue des Champions. J'espère qu'il fera tout pour nous permettre de la gagner. C'est un garçon gentil, discret, toujours poli, c'est par ses performances qu'il s'exprime. Pour moi, c'est un exemple, il serait d'un apport incroyable pour n'importe quelle équipe au monde. C'est un joueur clé, et j'espère qu'il sera déterminant ce soir de la meilleure des manières.
And he will be key tomorrow, and I hope in the best way possible.
Toujours dans cette expérience contre la jeunesse, mais c'est vrai que N'Golo Kanté et Thomas Tuchel a fini par admettre que peut-être qu'il était essentiel dans son 11.
Et puis au match aller, c'est pas loin d'être le meilleur, hein, c'est peut-être même le meilleur
il
sur
est,
le
il
terrain.
Il est l'homme du match, hein,
ouais,
il semble. Hein.
Ouais, ouais. Donc oui, alors après, Philippe a raison aussi de dire que côté de Chelsea, il y a quand même de l'expérience, mais pas seulement la structure du club, c'est-à-dire qu'un Thiago Silva, un Rüdiger maintenant aussi, qui est en équipe nationale allemande, et quelques autres, c'est pas une équipe de jeunes premiers, même si ceux sur lesquels on compte, et même à l'Euro qui vient aussi, comme Mason Mount que vous avez cité, Annie, sont là pour faire un peu la dynamite aussi. Hein, donc c'est peut-être que cet équilibre peut amener Chelsea jusqu'au trophée, qui sait.
Il a fini par l'admettre, hein, parce que son N'Golo Kanté était important.
Parce oui, parce que son jusqu'à début présent, de mandat à Chelsea, voilà, il disait du bien, mais il ne le faisait pas jouer.
Voilà, c'est ça.
Non, mais dans la réalité, il a eu beaucoup de pépins. Aussi. N'Golo Kanté a eu énormément de pépins, de petits trucs
depuis
tout au long.
Janvier.
Oui, oui, mais avant début de saison,
oui,
avant.
Ça, oui.
Mais même depuis janvier, il y a eu des pépins réguliers. Donc, je pense pas un instant que, parce que c'est vrai que Kovacic, par exemple, jouait plus que N'Golo Kanté.
Mais
je crois pas du tout qu'on puisse pour autant dire Thomas Tuchel, il connaît rien au foot parce qu'il croit que Kovacic est meilleur que N'Golo Kanté. Il faisait ce choix à ce moment-là. Un choix où il faisait tourner énormément et un moment où aussi N'Golo Kanté avait régulièrement des petits pépins. Il les a multipliés cette année. Aucun grave. Heureusement, il a jamais été absent une très très longue période. Mais très souvent, on le voyait moyen. Moi, je l'ai vu très moyen sur certains matchs. Ce qui quand même, alors que s'il y a un joueur où en termes de régularité on peut le vanter et le mettre en avant, c'est lui. Et je l'ai vu souvent assez moyen, donc il avait des pépins à l'évidence.
Non mais c'est marrant, c'est un joueur qu'on croit toujours un peu anachronique. Il est tout petit, il est pas du sur les réseaux sociaux, il se met pas en avant, il est pas star, il est pas iconique. Mais aujourd'hui dans le football où il faut de plus en plus courir, bah lui il court tout le temps. Donc c'est à bonheur quoi.
On se souvient de ses sprints parfois dans certains matchs où on se dit mais qu'est-ce qu'il fait dans la surface de réparation.
Et vous n'entendrez jamais un mot plus haut que l'autre. Il prendra peut-être des cartons jaunes ou peut-être des cartons rouges, hein, ça peut arriver. Mais il ne fera rien dans ce football qui est devenu une espèce de
circus.
Oui, de circus,
de show,
galerie de mode là où tout le monde s'expose. Lui, voilà, il est anti Yoshoff.
Zinedine Zidane avait eu à ses côtés un joueur de cette valeur-là avec Claude Makélélé. Enfin, c'était aussi. Et il aurait très bien pu témoigner.
Le rapprochement n'est pas idiot.
Ouais, parce que c'est des joueurs qui sont indispensables quelque part.
Alors celui qui sera aussi sous les feux de la rampe ce soir, eh bien c'est quelqu'un qui revient.
So skilled in so chaffing fast, he's better than Steve Gerrard. Hazard.
Alors c'est tout simplement Eden Hazard, n'est-ce pas? Quand on chantait ses louanges du côté de Londres, l'ancien blues qui a disparu quand même depuis qu'il a quitté Londres. Alors lui aussi, c'est pour des causes beaucoup de blessures. Il est revenu ces derniers temps et il a dit toute sa joie lorsqu'il a recommencé à jouer. Il a commencé au match aller et puis il a commencé aussi au cours du week-end, 73 minutes face à Osasuna.
Of course, I want to play. I want to be on the pitch, but.
Bien sûr que je veux être sur le terrain. La dernière fois, j'ai joué un quart d'heure. Cette fois-ci, un peu plus. Il reste encore quelques gros matchs à disputer d'ici la fin de la saison. L'objectif, c'est d'être prêt à les jouer. Je vais mieux. Je me sens mieux dans mon corps. Alors, je suis tout simplement heureux de pouvoir rejouer. C'est toujours bon d'affronter des amis. J'en ai gardé encore quelques-uns. Mais à présent, je suis joueur du Real Madrid. Je veux simplement gagner, peu importe l'adversaire, même si c'est Chelsea.
Alors évidemment, son entraîneur Zinedine Zidane, eh bien, il le mettra très certainement titulaire ce soir, mais surtout, ça fait quand même quelque temps qu'il aimerait pouvoir compter sur lui. C'est
un très bon moment pour qu'il revienne. Il est prêt et c'est bien parce qu'on va avoir besoin de lui. On sait quel joueur il est, il va beaucoup nous apporter, c'est certain.
David Lortolari, on se dit seguro, hein, comme nous dit Zidane. On sait quel joueur il est, mais est-ce qu'on sait encore quel joueur il est, Eden Hazard?
Bah oui, c'est la grande question. Je pense que les Belges avaient une peur bleue d'avoir ni Eden Hazard ni Witsel pour l'Euro qui vient. Et
les Belges ont toujours une peur bleue depuis qu'on les a battus en demi-finale.
C'était même pas volontaire, Dominique. Et là, le retour d'Eden Hazard qui retrouverait un peu des jambes et tout, je pense que ça va faire du bien. Mais là, je vois un peu plus loin. Et pour
Zidane, voyez jusqu'à l'Euro.
Non, c'est peut-être un peu tôt. Sauf que on a vu aussi la façon dont Vinicius pouvait. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais pouvait aussi être un joker ou un joueur très intéressant et faire des différences. Il a eu peut-être de la réussite au tour précédent, le jeune Vinicius, mais ça peut être aussi une solution si Hazard commence à boiter bas au bout d'une heure de jeu, par exemple. Donc, de ce point de vue-là. Mais quand je dis boiter bas, c'est n'avoir plus le coffre pour continuer le match. Mais Hazard, évidemment, pour Zidane, c'est une attente depuis le début, parce que je crois que depuis qu'il est au Real, il n'a jamais encore pu vraiment démontrer à quel point il était possiblement brillant.
Ah bah, ceux qui suivent la Ligue 1 vont avoir une image parlante. Il a moins joué que Neymar. Avec le PSG qui en est à un match sur deux avec
Effectivement,
Paris.
On a une image
donc,
tout de suite.
Voilà, donc il a encore moins joué d'Eden Hazard en ratio. Donc c'est pour l'instant.
Oui, puis ça dure depuis 2 ans.
Ouais, voilà, c'est terrible. Mmh. Et alors dans une époque, vous savez, on commence déjà à parler des transferts. On nous dit que Mbappé pourrait aller au Real Madrid, que Mohamed Salah, l'Égyptien de Liverpool, pourrait aller au Real Madrid, même s'il est un peu pisté par tout le monde. Bah, c'est le temps de se réveiller. Eden Hazard, il a, j'ai envie de dire,
il a quelques matchs pour
un
faire
mois
ses
pour
preuves,
convaincre,
c'est ça. Ouais.
Parce que c'est l'époque où Florentino Pérez va vouloir une nouvelle star pour amuser la galerie et renouveler son Real. Et donc, bah oui, comme dit Zidane, ça tombe à pic.
Est-ce que c'est un piège pratiquement pour Eden Hazard, Philippe, de se retrouver lancé quand même dans une demi-finale retour? Alors, vous avez l'air de penser qu'il ne sera peut-être pas titulaire.
Il était rentré au match.
J'ai des petits doutes, ouais.
Oui, il était rentré, mais genre 10 minutes,
doute,
on l'avait à peine
vu. J'ai
un
petit doute qu'il soit titulaire, mais bon, c'est pas évidemment pas une absurdité. Oui, ça peut être un peu piégeux dans le sens où, évidemment, il n'a pas le rythme. Ça, évidemment, on l'a vu d'ailleurs lors du match aller. Il est rentré correctement, mais sur 20 minutes. C'est pas, évidemment, il n'est pas explosif. Évidemment, il n'est pas le Eden Hazard décisif qu'il a pu être il y a maintenant, malheureusement, 3-4 ans déjà. Donc, parce qu'il n'a pas le rythme, parce qu'il est, il a pas le coup de rein qu'il avait à cette époque-là. Il n'est pas prêt pour ça, en tout cas. Donc, il peut rendre des services, mais à mon avis, différents. C'est pour ça que, je sais pas, peut-être plutôt Vinicius, plus explosif dans une première partie de match et peut-être Hazard pour gérer une fin de match. Bon, c'est une supposition, je ne suis pas dans la tête de Zidane.
Et Zidane doit savoir qui est le meilleur entrant des deux, en fait.
Oui,
s'il pense que Vinicius est un meilleur entrant que Eden Hazard, bah, il...
pour lancer le match.
Voilà, mais si lui sait.
Enfin, la première heure, ça compte aussi quand même.
Ah oui,
c'est bien de bien rentrer, mais la première heure, elle compte.
On peut faire des changements à la mi-temps, hein, au bout de 40 fois.
Il faut penser aussi au début du match. Hein, parce que c'est sûr qu'à 3-0, après, tu peux très bien rentrer, ça ne sert à rien.
À vous écouter, on reste dans le doute. Allez, David, pour ce soir, un petit pronostic. Pas forcément un résultat, mais en tout cas.
Non, mais on va retomber
qui sera en finale.
On va retomber sur nos généralités. Il y a un ancien joueur du Real qui a joué à la fin du millénaire dernier pour ce club qui était gardien de but, champion du monde.
Oui,
Bodo Ilgner, qui s'exprime dans la presse régulièrement en Allemagne et qui a dit ben, le Real, évidemment, parce que le petit plus qu'il faut à ce moment-là de la compétition, l'expérience nécessaire, ça sera forcément du côté du Real, avec ce qu'on a dit avant, avec le fait qu'il y a finalement un demi-but d'écart au coup d'envoi, on va dire, parce que même si ça n'existe pas, mais vous voyez bien l'idée, si c'est comme ça, si proche des deux côtés, ça devrait, selon lui, pencher côté Real. Je suis assez d'accord avec cette analyse.
Dominique?
Ah bah moi, c'est sans aucune analyse, c'est juste une volonté, c'est que ça soit le Real.
Carrément.
Parce que,
vous allez brûler une bougie.
J'ai envie de voir Karim Benzema une nouvelle fois en finale, j'ai envie de voir Zidane une nouvelle fois en finale. C'est très chauvin. Ça me ferait plaisir, mais j'ai rien contre Olivier Giroud, N'Golo Kanté. Voilà.
Et puis peut-être une envie aussi que la finale ne soit pas une finale entre deux clubs du même pays, qui est toujours. même si Bayern Dortmund avait été une très belle finale. Ouais, mais
Tottenham Liverpool, c'était
moyen. C'était moins, c'est jamais la même passion. De... Ouais, il manque quelque chose.
Même si mais sans public actuellement,
au-delà de ça, je pense, moi, je vois le Real se qualifier. À l'inverse de ce que j'ai pu penser le soir du match aller.
Ouais.
Une semaine après, je pense l'inverse.
Mais dans la vie, on change la vie des fois.
Ouais. Mais oui.
Certains.
C'est le principe.
En tout cas, n'oubliez pas, il y aura une soirée spéciale sur RFI à partir du coup d'envoi avec nos camarades du service des sports et notamment Martin Guez qui attend toujours vos messages. Et puis, nous serons présents, s'il n'y a pas prolongation, pour une deuxième édition de Radio Foot International à 21h10 en temps universel. 23h10, oui, c'est pas sûr, Philippe, mais en tout cas, on sera là et on verra ce qui se passe. On verra ça tous ensemble.
Qui ça ? Riyad Mahrez qui ouvre le score sur le terrain de Manchester City. Mahrez, le deuxième but de la soirée.
Manchester City double the lead. C'est la première finale de l'histoire de Manchester City, première finale de Ligue des Champions, grâce à Riyad Mahrez, double buteur ce soir.
Et pour Paris, ce fut donc la Bérésina. Dominique, il y avait même la neige. Hein. On n'était pas au mois de décembre ni en retraite, mais quand même. La couronne de laurier revient donc à Manchester City, le PSG éliminé par une équipe donc de Pep Guardiola qui a, peut-on dire, tenu son rang cette fois. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Le club tente depuis 13 ans de se hisser en finale de la Ligue des Champions. Il l'avait réussi, c'était la deuxième fois qu'il se hissait en demi-finale. Avec Pep Guardiola au club depuis 2016, eh bien, ce désir de coupe était décuplé. Et ce sera donc la première finale de l'histoire des Citizens. Est-ce que c'est une histoire de détails, selon vous, comme une bataille qu'on va préparer avec ces généraux pour bien les mettre là où il faut, Dominique ? Est-ce que finalement, il a eu ses soldats et que c'était le bon moment pour arriver en finale au bout de 5 ans de travail, en fait ? Il l'a peaufiné, cet effectif.
Bah, c'est vrai que c'est rare dans le football moderne d'avoir 5 ans pour travailler, pour d'avoir quasiment un carnet de chèques illimité pour refaire des défenses ou acheter des latéraux chaque année ou des défenses centraux chaque année.
Le club aurait dépensé en 13 ans 2 milliards, nous disait hier Bruno Constant.
En tout cas, pas en transfert, mais en tout, l'investissement d'Abu Dhabi est de 2 milliards.
Et Guardiola en a dépensé pas mal, lui, depuis 2016, notamment pour construire chaque année une défense, tant qu'il n'a pas trouvé ce qui lui convenait. Et là, visiblement, avec Diaz, avec Stones, avec Walker, avec Zinchenko, Cancelo, il a trouvé ce qu'il voulait. Parce que même Benjamin Mendy, qu'il avait acheté il n'y a pas longtemps, mais il compte déjà plus. Donc, il a façonné une équipe, un modèle. Le deuxième but, c'est exactement ce qu'il travaille tout le temps à l'entraînement. Donc, pour moi, ça s'est pas joué à des détails. Ça, c'est sur l'ensemble des deux matchs. La meilleure équipe l'a emporté. La meilleure équipe est allée en finale. C'est plus cohérent. Paris n'a pas forcément été ridicule. Il s'agit pas de dire ça. Il s'agit pas de dire non plus qu'il y a eu une classe d'écart. Mais la meilleure équipe s'est imposée.
Philippe, c'était peut-être pas une équipe spectaculaire qu'on a vue de ce Manchester City. Mais en tout cas, peut-être une équipe qui a mûri. C'est-à-dire, il y a ce jeu de possession, mais il y a aussi une énorme solidité défensive. Et puis, ce côté clinique.
Oui, et puis un état d'esprit défensif aussi qu'on a vu à quelques moments qui n'était pas très courant avant, où l'insistance était plutôt sur la qualité de jeu. Et du coup, le City de Guardiola était beaucoup plus spectaculaire. Il y a deux ans, il était beaucoup plus spectaculaire qu'il n'est aujourd'hui. Par contre, il n'avait pas la même solidité. C'est-à-dire qu'il pouvait prendre 3 buts contre le Tottenham de Pochettino, alors qu'il avait, si on regardait la radiographie des deux équipes, il y avait un écart considérable entre les deux. Mais à l'arrivée, il ne gagnait que 4-3 et se faisait finalement éliminer par Tottenham. Aujourd'hui, on a senti que ce Manchester City, ils en avaient même sous la semelle. Quand on dit ça jouait des détails, c'est vrai qu'il y a eu des moments où PSG aurait pu faire basculer différemment la rencontre, c'est exact, et à l'aller et au retour. Mais on se demande si City n'aurait pas aussi agi différemment. Donc quelque part, il est très difficile quand on a pris 4-1 sur l'ensemble des deux matchs et perdu les deux matchs de dire ah ça s'est joué à 2-3 détails. Allez, 2-3 détails quand ils sont tous du même côté, il y a un moment où forcément il reflète quelque chose.
On parle de la défense, mais c'est vrai que dans la défense il y a eu cette ours là devant la cage qui a été Ruben Dias d'ailleurs désigné par l'UEFA homme du match. On avait aussi Walker.
Ah, c'est pas Mahrez. Non, c'était pas Mahrez l'homme du match. Ah
bon. Mais nous on va le faire après, vous inquiétez pas. Ouais. On va réparer cet affront. Mais en tout cas, c'est vrai que cette défense qui a tant gêné hier le PSG, c'était effectivement pas les hommes qu'on voyait le plus avant sur le terrain de l'équipe de Manchester City.
C'est vrai, Annie. Il y a l'attitude, mais au-delà de l'attitude, on peut revenir à ce que vous disiez aussi sur le jeu d'échecs, sur la stratégie. Il y a quand même du Guardiola là derrière. On peut dire par exemple hier Fernandinho, il a eu du déchet dans ses transmissions, etc. Mais il a aussi été extrêmement utile au milieu de terrain pour couper des circuits, pour empêcher des transmissions.
Ou énerver un peu.
Peut-être que sur le plan du détail, même si pour moi, je suis pas du tout d'accord avec l'idée que ça se joue sur des détails, parce que Dominique a raison, c'est une question de cohérence collective quand même avant tout.
Alors si on parle autant de détails, c'est parce que beaucoup de joueurs du PSG ont eu cet argument.
Et ils sont dans le déni.
Oui, exactement. J'allais pas utiliser le terme de déni, mais c'est ça. C'est
le premier soir, on peut les excuser, après on verra.
Mais après, c'est peut-être plus facile aussi pour l'entraîneur de Manchester City de construire un système plus avançant, plus offensif, plus cohérent, plus agressif quand vous n'avez pas à craindre derrière vous que Neymar glisse des ballons à Mbappé dans tous les sens et que ça soit un enfer pour défendre. Il n'y avait pas ce problème aussi hier soir. C'est peut-être aussi un point qui facilite la bonne marche de Manchester City. Moi, je veux bien aussi qu'on regarde quand même les individualités parce que c'est là-dessus que Paris a cherché à construire sa gloire en faisant venir Neymar et Mbappé. Si vous n'avez pas l'un des deux, c'est déjà moins performant. Mmh. Peut-être que pour Guardiola, c'était aussi un coup d'avance dans le jeu d'échecs. Et on sait bien que quand on a un coup d'avance dans le jeu d'échecs, on est presque déjà gagnant.
En tout cas, sur l'aspect défensif ou défendre. Moi, depuis que je suis le football de manière proche sur le terrain, je connais pas une Coupe du Monde, une Ligue des Champions, un Championnat de France, un titre gagné sans une grande défense.
C'est vrai, je ne connais pas.
Mais d'ailleurs, jusqu'à présent, il n'y arrivait pas au final.
Non, on me dit, mais Jacquet est un entraîneur défensif. C'est la meilleure défense de la Coupe du Monde 98 a gagné. Il se trouve aussi que la France est la meilleure attaque. Ça, on oublie de le dire. Mais Deschamps est un entraîneur défensif.
Mais il n'y a pas forcément pas que ça. On pense à Mourinho, il est très défensif.
C'est ce qui fait penser que Lille, par exemple, en France, peut être champion de France parce que c'est la meilleure défense du championnat. Ça compte énormément. Quoi. Quand on défend bien, on a en général plus de chances de gagner des titres.
Alors un homme dans cette bataille remportée hier soir, donc le premier Algérien en finale depuis Rabah Madjer en 1987 et à qui nous aurions donné aller la rosette en fin de partie, comme son entraîneur d'ailleurs, Pep Guardiola.
Riyad is an extraordinary player. Big talent, huge quality.
Riyad est un joueur extraordinaire, un grand talent avec d'énormes qualités. En particulier dans les grands rendez-vous, il est toujours présent. C'est un joueur fantastique et on sait de quoi il est capable. À ce niveau de la compétition, les joueurs sont jugés sur leur comportement, sur l'influence qu'ils ont dans les grands matchs. Il est toujours très à l'aise. Il a marqué un beau premier but du pied droit. Une action avec Kevin De Bruyne, la passe décisive de Phil Foden et la finition. Sur 4 buts inscrits, il en a mis 3. Il mérite toutes mes félicitations.
Philippe Doucet, Riyad Mahrez, ce doublé fatal hier, il marque au bout de 10 minutes, on se dit oui, aïe, aïe. Bon, mais il faut toujours en marquer deux. Et puis après, ça sera le deuxième but. Il avait eu ce fameux coup franc au match aller. Vous le feriez quoi, vous? Chevalier, officier, commandeur, la Légion d'honneur?
Non, mais il ne faut pas se précipiter, évidemment, mais sur les récompenses et surtout sur un match, parce qu'à l'arrivée, il faudra encore gagner la finale, il faudra encore être décisif. Mais en tout cas, hier soir, il a été phénoménal. Autant au match aller, il n'avait pas dominé totalement son sujet. Hier soir, il était phénoménal. Diallo l'a pas vu. Enfin, il l'a vu de dos, pour l'essentiel. Même Kimpembe, il l'a éliminé avec une facilité dérisoire, ce qui montre toute la qualité de ce joueur. Il a été déroutant. Moi, j'ai vu des gens critiquer Kimpembe sur le premier but. Mais quand vous êtes face à Mahrez, vous savez pas du tout s'il va tirer du droit, s'il va revenir, s'il va crocheter. Si vous partez en glissade sur un gros tacle et qu'il reste sur place et qu'il l'ajuste du gauche, tout le monde lui dit qu'est-ce que c'est que cette façon de défendre. Voilà, son côté imprévisible en fait un acteur majeur non seulement du match hier, mais du foot en général. C'est un artiste superbe.
C'est un artiste presque qu'on redécouvre, je dirais, parce qu'on se souvient de Leicester quand il est l'un des artisans de ce titre de Leicester City en 2017, hein, si on se trompe
2016.
Pas. 2016, pardon. Ouais. Et il est cette année-là aussi le meilleur désigné meilleur champion de meilleur joueur ouais. pardon ouais. de la Premier League. Et puis ensuite, on se souvient de lui aussi à la CAN où il entraîne les Algériens au sacre de la champion d'Afrique en 2019.
On peut parler de réussite sur un match, parce que c'est vrai qu'au match aller, je suis d'accord avec Philippe, il n'était pas forcément toujours dans le tempo, etc. Mais le coup franc, très 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 réussi là pour le coup, à travers un mur, enfin c'était de la réussite. Mais le truc c'est que là, il y a de la réussite une semaine plus tard encore. Donc déjà, c'est un peu moins le fruit du hasard, voilà, exactement. Moi, on a tendance à regarder tout de suite les petits prodiges. Aujourd'hui, en Angleterre, tout le monde parle de Mason Mount, ouais. tout le monde parle de Phil Foden. On est prompt, et moi le premier aussi, à s'émerveiller.
À les observer, en tout cas.
Voilà, mais s'émerveiller aussi de ce qu'ils sont capables de réussir, de leur qualité naturelle, comme ça, tomber un peu du ciel. Mahrez, vous avez raison de souligner, Annie, qu'il a été bon par le passé, qu'il a pu avoir peut-être des moments plus difficiles, que là, il revient peut-être au bon moment, et encore une fois, ce que dit Philippe, c'est sûr, c'est que maintenant, c'est la finale. On veut le voir en finale, on veut le voir à la hauteur aussi en finale, pour qu'on puisse lui attribuer... tous les mérites de l'éventuel titre de Manchester City.
Dominique, c'est dans l'histoire du Paris Saint-Germain, ces anciens du Paris Saint-Germain ou ces anciens enfants d'Île-de-France qui sont un peu les Brutus de l'histoire. Brutus, c'était pas Napoléon.
On se demande, quand on voit un enfant de Sarcelles réussir aussi bien dans un autre pays que la France, donc là l'Angleterre, avec champion avec Leicester, et il va être champion cette année avec Manchester City.
Il a déjà été, je
on
crois,
se demande
il y
comment...
a deux ans aussi.
Oui, tout à fait, sûr, en 2010. Ouais. 19, d'ailleurs, parenthèse dans ce que je vais dire, mais en 2019, il gagne la CAN, il gagne le championnat, il gagne la Coupe, et au Ballon d'Or, on ne parle jamais de lui comme un candidat potentiel. Moi, ce genre de choses, ça m'énerve. Quoi.
Mais on sait qu'on se focalise toujours.
On a l'impression qu'il n'était pas toujours titulaire à City, bref, ouais, il y avait d'autres joueurs qui étaient mis en avant.
On a l'impression parfois qu'il y a une discrimination du joueur africain, c'est une parenthèse. On a eu ce débat.
De Sarcelles.
On a eu ce débat avec Sadio Mané et Mohamed Salah pour d'autres titres. Et donc, quand on voit un enfant de Sarcelles réussir aussi bien dans un autre pays que la France, on se demande, mais que font les dirigeants français de football? Que font les dirigeants de Ligue 1?
Ben, ils l'ont formé.
Pourquoi
Ils l'ont formé.
Oui, mais il est
et
révélé.
Et après, il a joué en Ligue 2 seulement.
Voilà. Il est révélé en Angleterre.
Absolument.
Et pourquoi des grands dirigeants de Marseille, Paris Saint-Germain, Lyon, Monaco, qui sont des clubs habitués à la Ligue 1, n'ont pas saisi l'occasion de... Je crois savoir qu'à Marseille, on n'a pas voulu de lui. C'est quand même un truc de fou. Ça me rend fou.
Ouais.
Qu'un ancien président de l'OM a dit, non, j'en veux pas. C'est quand même incroyable, alors qu'il lui voulait y aller. Donc voilà, aujourd'hui, on est là, admiré devant notre télévision, un super joueur qui est en finale de Ligue des Champions. Bah, j'aurais bien voulu qu'il fasse le bonheur de 3-4 ans en Ligue 1.
Eh bien, on l'admire, Riyad Mahrez, et on verra cette équipe donc le 29 mai prochain en finale de la Ligue des Champions. Mais avant, on risque de les voir champions d'Angleterre. Parlons maintenant, Dominique, on y va, le PSG. Le rêve de disputer deux finales consécutives s'est donc évanoui dans le froid de l'Angleterre, hein, parce que hier, décidément, ils ont eu de tout, hein, la neige à Munich, la pluie battante ici à Paris.
Ils ont aussi beau temps à Barcelone.
Oui, voilà. Bon, des fois, ça aide. Alors, en tout cas, ils avaient perdu sur leur pelouse il y a une semaine sur le score de 2-1. Là, hier soir, ils ont perdu 2-0. Donc, qu'a-t-il manqué à cette équipe? Avant de venir au jeu ou aux individualités, ce qui s'est vu le plus à la fin, et c'était peut-être désolant, voire gênant, c'est qu'il leur a manqué les nerfs, et ça leur arrive souvent. On a calculé, d'abord, ça c'est les statistiques, 4 cartons rouges pour le Paris Saint-Germain. Non, alors rouge sur les dernières Ligues des Champions, et c'est un record. Et on a calculé que là, ils ont eu 34 minutes où ils ont joué à 10 sur 180 minutes, c'est-à-dire sur les deux matchs. La presse anglaise se paye un peu le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, ils sont toujours gentils avec nous, les Anglais. Alors, The Telegraph écrit, mais quand même, On peut pas ne pas penser qu'il y a un peu de vrai. Le PSG irascible et pathétique. L'argent ne peut acheter la classe. Alors ça, c'est le truc méchant. Mais ils disent aussi plonger, entourer l'arbitre, régler leur compte avec leurs adversaires, prendre un carton rouge. Voilà ce qu'ont fait les Parisiens.
C'est vrai qu'en Angleterre, c'est des structures bénévoles. Hein, souvent, ouais. Chelsea, Manchester City. C'est vrai que les gens jouent pas pour l'argent.
Jouent pas pour l'argent.
Oui. Non, c'est vrai que le Paris Saint-Germain est un mauvais perdant.
Mais ça, c'est un défaut.
Ça, on le constate.
Mais même quand ils vont jouer à Lorient, quand ils vont jouer
entre
à
Lille,
Nantes.
Neymar s'est fait expulser. Dans des conditions
à Marseille, on s'en
très
souvient.
Bizarre. Le classico de ce début d'année a viré au scandale avec un pugilat pour finir, pas digne des grands joueurs qu'ils sont. C'est-à-dire que ce sont là, bon, il est blessé au mollet en ce moment, mais Mbappé n'aurait pas joué à Rennes ce week-end. Il a reçu 3 cartons pour contestation. Donc c'est la deuxième fois de la saison qu'il est suspendu pour 3 cartons pour contestation. Donc ça veut dire qu'il a eu 6 cartons jaunes pour contestation. À 22 ans, avec le talent qu'il a, le génie qu'il est, qu'est-ce qui vient s'embêter à aller discuter avec l'arbitre?
Mais Dominique, on a l'impression qu'en plus, les entraîneurs passent et le problème reste.
Marco Verratti a un problème de discipline depuis tout petit. Depuis, j'ai envie de dire, il est arrivé Bambino au Paris Saint-Germain avec Carlo Ancelotti qui a essayé de résoudre le problème. Il a pas réussi. Laurent Blanc a essayé de résoudre le problème. Il a pas réussi. Personne. Voilà. Donc, c'est bon, lui, on va dire qu'il est perdu. Mais c'est contagieux, quoi. Di Maria, qui est pas un fou furieux, marche sur le pied de Fernandinho et l'insulte.
C'est lui qui est exclu hein, hier soir.
Oui, tout à fait. Au match aller, on peut considérer
que c'était deux jaunes.
On peut considérer que Gay. Pochettino n'a pas aidé Ganagay en ne le sortant pas alors qu'il était en train de faiblir. Il l'a pas aidé, on va dire. Mais bon, c'est pas une raison pour que Gana mette une semaine non plus. Donc voilà, pourquoi Paris perd ses nerfs? Bah parce que c'est un mauvais perdant. On voit que Leonardo contre en Ligue 1, là, est allé voir l'arbitre pour lui expliquer comment ça devait se passer pour
même
arbitrer Neymar.
Même Pochettino, c'est ça le problème. C'est l'exemple. Hein. On pense aux familles. C'est l'exemple bien des parents.
Moi, je trouve que c'est un club qui a une mauvaise gestion des émotions. Et donc, pour l'instant, ça se traduit d'une très mauvaise manière parce que à force de jouer à 10, parce qu'en plus, vous jouez à 10 d'un point de vue numérique, mais quand vous jouez avec Icardi, vous jouez déjà à 10. Donc en fait, ils étaient 9.
David Lantola, oui.
Dominique, vous venez de donner les ingrédients de la réponse. L'entraîneur a des responsabilités vis-à-vis de ses joueurs, bien sûr, mais au-dessus de lui, il y a un directeur sportif qui a des responsabilités aussi.
A vu s'énerver contre des arbitres le week-end dernier.
Pas très bienvenu, à mon avis. Et au-dessus du directeur sportif, il y a aussi une direction dans un club. Et peut-être qu'au Paris Saint-Germain, ces postes-là, je sais pas, sont pas suffisamment dans la culture du respect d'une institution ou d'une structure ou du sport tout simplement. Et parce que je sais pas, vous comparez avec d'autres clubs, enfin cette attitude-là que
non,
vous soulignez.
Non, mais Paredes, il le fait aussi très régulièrement. Il y a eu d'autres joueurs avant, Thiago Silva aussi.
Je suis pas sûr que dans les grands clubs européens, alors bon, c'est peut-être un peu professeur d'école ce que je vais dire, mais je suis pas sûr que dans d'autres grands clubs européens, on laisserait passer durablement ce genre d'attitude.
Philippe,
c'est d'autant plus
au-dessus de l'entraîneur, je dis bien.
Hein. Oui, je comprends bien. Et c'est là-dessus que je rebondis. D'ailleurs, ça dépasse largement l'entraîneur. C'est assez surprenant vu l'importance que l'image représente en termes d'image pour le Qatar. Je ne parle pas de Leonardo, je parle encore d'au-dessus. C'est tellement important au niveau de l'image. Je suis toujours un petit peu troublé devant certains comportements. Je me dis, c'est bizarre qu'il ne passe pas un certain nombre de messages. Parce que chaque fois, ça se passe quand même relativement mal. Hier soir, honnêtement, si M. Kuipers, qui a été très, très critiqué, bien sûr, par les Français, honnêtement, il doit mettre 3 rouges sur la fin. Il n'y en a pas qu'un sur Di Maria. Verratti, c'est une évidence qu'il doit prendre un 2e jaune. Il ne le fait pas parce qu'il sent bien que ça ne sert à rien. C'est de la psychologie intelligente de la part de l'arbitre parce que la fin du match aurait été encore plus éruptive, ça aurait été insupportable. Il ne l'a pas fait, il n'a pas mis. Kimpembe fait un tacle de malade mental aussi. Enfin bon, il pouvait finir à 3 rouges et dans le ridicule total. Parce que s'ils se sentent victimes, ce qui est probable, la frustration, tout ça, on veut bien le comprendre. Le haut niveau ne permet pas ça.
Et ils règlent leur compte eux-mêmes sur le terrain. C'est ça qui est dingue.
Dans le haut niveau, on ne peut pas.
Ils se pénalisent parce que Di Maria, il sera suspendu quand la Ligue des Champions va revenir si Paris est qualifié. Ganagay, s'il y avait eu finale, il n'aurait pas pu la jouer. Il a pris 2 matchs par la commission de discipline de l'UEFA. Donc ils se pénalisent même. Après, ce que dit Philippe, ça renvoie à la question, est-ce qu'on peut leur dire quelque chose à ces joueurs-là? Est-ce que Neymar, qui fait n'importe quoi en termes de discipline, est-ce que quelqu'un peut aller le voir au club et lui dire ce que tu fais contre Lille, te battre dans les couloirs, ça se fait pas. Mais, ok, t'es souvent victime de fautes, mais on ne fait pas justice soi-même.
Bah, étant donné qu'après PSG Lens, Leonardo se comporte à peu près de la même manière, forcément. Bon, bah, c'est pas pour donner des leçons, c'est que simplement,
non,
on voit bien
triste.
La question, ce que dit, la question que posait tout en donnant la réponse un peu David, elle est bonne, c'est-à-dire que les grands clubs se comportent pas comme ça. Ils cherchent à influencer, ils cherchent à avoir les faveurs des puissants, etc., des arbitres, etc.
Et Philippe,
très bien, évidemment. Mais ils ne se comportent pas comme ça, parce que c'est en étant comme ça qu'on n'obtient aucun soutien.
C'est un aveu de faiblesse très rapidement. Souvent, dans le match, on se dit « Ah, ça y est, Neymar s'énerve, c'est que ça tourne pas rond et que ça va pas marcher. »
Bah, Fernandinho, il a très très vite ciblé les joueurs qui pouvaient péter les plombs.
Hein. Pour ça,
oui, tout le monde le savait. Bah, en plus, quand on a vu la compo, on s'est dit « Ah tiens !»
Pour tomber dans le piège.
Oui, et ils sont tombés. Pourtant, comme dans la marmite. pourtant, eh bien, tout le monde, ce matin, alors s'efforce de tirer aussi un bilan positif pour le Paris Saint-Germain. Écoutons cet ancien attaquant du Paris Saint-Germain, l'Ivoirien Bonaventure Kalou, au micro de Martin Guez hier soir. Alors, vous allez l'entendre, c'est dans la nuit africaine, sans doute, de Vavoie, dont il est maire depuis 2 ans et demi. Il les encourage quand même, les Parisiens.
L'histoire de Paris en Champions League, c'est un peu le chien qui mord sa queue. J'y ai cru, surtout au match aller. C'est ce match d'aujourd'hui-là, on a été dominé de bout en bout, donc il n'y avait rien à espérer. Mais je pense que sur le match aller, il y avait de gros espoirs, parce que voilà, on était au-dessus de City. Mais bon, pour moi, c'est encore une grosse déception. Pour le supporter de Paris que je suis, grosse déception, malheureusement. Mais bon, en football, faut jamais se décourager, faut toujours y croire. Donc j'y crois pour l'année prochaine.
Philippe, alors sans penser à l'année prochaine, quel bilan tirez-vous de cette année de Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain?
D'abord, je suis profondément agacé par justement cette phrase, voilà, à l'année prochaine. Mais non, mais un club, c'est toute l'année, c'est tous les jours, c'est un comportement, déjà, c'est des matchs tout le temps, réguliers.
C'est peut-être le titre de
championnat. Il y a un championnat à finir, il y a une Coupe de France à finir, et c'est parce que les grands clubs sont sans arrêt sur l'exigence permanente qu'ils sont des grands clubs.
Si au PSG, ou
dans les mentalités d'ici, on pense que le prochain match important, c'est le 18 février 2022, parce que c'est les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, et ben c'est qu'on a toujours rien compris de ce qu'est l'ADN d'un club. L'ADN d'un club, c'est tous les jours gagner. Et la Ligue des Champions, ben, vous la gagnerez une fois, pas forcément l'année où vous pensez la gagner d'ailleurs, vous la gagnerez comme ça une fois, et puis peut-être une deuxième fois, mais ça viendra quand vous travaillerez correctement.
Bilan positif ou nuancé ou négatif? En quelques mots.
La saison du PSG, elle n'est pas extraordinaire. Il faut dire les choses.
12
défaites
déjà. Par contre,
si on prend 13, je crois, il y avait celle d'hier soir, il me semble.
Pardon.
Je crois que c'était la 13e. Mais par contre, il y a eu des choses sur lesquelles le PSG a progressé. On a vu des choses contre Barcelone, contre le Bayern, qui montrent, et même contre City, par instant, malheureusement, pas sur la durée de 180 minutes, sinon il ne serait pas là. Mais il sera encore là. Peut-être. En tout cas, on a vu des choses qui marquent une progression. Mais le bilan total de la saison fait qu'il y a eu suffisamment de défaites pour qu'on se dise, finalement, c'était normal qu'à un moment ou à un autre, ça passe pas.
Au vu de certains matchs retour, par exemple. David Lortolari.
Éliminer Nice, Barcelone, puis le Bayern, c'est sans doute plus prestigieux que l'été dernier où il y avait eu RB Leipzig et Atalanta Bergame. Peut-être plus prestigieux, mais moi, sur le match d'hier soir, un petit mot très vite. Il y a sans doute une adversité très forte, mais le seul joueur hier soir que j'ai senti dans l'esprit, dans l'attitude et même sportivement au niveau du rendez-vous, c'était Marquinhos. Capitaine, certes.
Qui, dans les statistiques, remporte 100% de ses duels.
Qui doit être le meilleur joueur parisien sur ce moment-là, mais ça suffit pas, parce que vous avez besoin aussi d'un gardien qui a de la réussite. Keylor Navas en a eu longtemps, peut-être moins sur ces deux matchs-là. Et puis devant, ça marchait pas non plus, donc c'est pas suffisant pour aller au bout.
Dominique.
Oui, écoutez, je retiens que 2 années de suite, ils sont allés au moins en demi-finale de Ligue des Champions. Pour un club qui était ridicule et ridiculisé parce qu'il passait pas les huitièmes de finale il y a pas longtemps, je trouve qu'il quand même, il y a un changement. Après hier, c'est une élimination un peu pathétique, et sans émotion. Il n'y a pas eu ce petit but qui aurait fait qu'on y ait cru un petit peu. Bon, hier, surtout, ils sont un peu sortis par la petite porte sur l'ensemble des deux matchs, même s'il y a une très belle première période au match aller au Parc des Princes. Donc, c'est une campagne, qui montre quelque chose. Je trouve que la promesse promesse que Pochettino nous a donnée, là, elle est intéressante. On a envie de voir désormais avec une année complète, une préparation estivale, quand il aura les clés surtout. Mm-hmm. Voilà, là, il vient d'arriver le 3 janvier. Donc, c'est les promesses de l'aube. Elles sont pas mal. Donc, on attend la suite. Bah, on a le droit de citer Romain Gary, quand même.
Oui, bien sûr. Bien sûr. À l'aube d'une bataille, n'est-ce pas? Allez, on continue. On va parler un petit peu de l'Afrique et de ses stades, Philippe. Je pense que ça vous intéresse. Livrée, bataille, loin de ses bases, sans ses tambours majors. Bon. Certaines équipes africaines en ont pris l'habitude et ce sera encore le cas pour plusieurs d'entre elles dans des matchs officiels à venir. Après un audit de plusieurs mois, la CAF a publié hier ou avant-hier, rendu public, je crois que c'était lundi soir à CETA, la liste des stades approuvés et donc celle des stades qui ne sont pas approuvés. Si certains pays, alors voilà, tout à l'heure on parlait du pays des Lions, hein, le Cameroun, eh bien, grâce au Chan, grâce à la prochaine CAN, eux, ils ont 5 stades. On a vu aussi la toute petite Guinée équatoriale avec ses 5 stades, mais il y a eu une CAN il n'y a pas si longtemps. Ou encore Nigeria, Maroc, Égypte. Bon. Eh bien, il y en a d'autres qui n'ont pas de pelouse. Alors, citons notamment. Il y a 22 nations, ouais. Parce que ce n'est pas que des pays, des nations qui sont retoquées, et notamment le Sénégal, le Burkina Faso, la Sierra Leone, le Mali, sans stade pour faire jouer, la Centrafrique aussi, pour faire jouer leurs équipes. Philippe, c'est un peu triste.
Oui, mais en même temps, c'est bien que la CAF fasse un...
Les secoues
les secoues et fasse un bilan réel. Parce que bien souvent, ce sont des stades inadaptés en termes de vestiaire, en termes de toilettes pour les spectateurs ou pour les joueurs, etc. Il y a des choses qui se corrigent. Et je suis sûr que les prochains matchs n'auront pas lieu, comme vous l'avez appris, les matchs n'auront pas lieu en juin.
Il y a un glissement.
Il y a un glissement et ce sera en septembre. Donc en septembre, j'ose espérer que parmi les 22 pays, il y en a au moins une douzaine qui vont réagir et se dire, bon, bah, on fait les travaux.
Faire les travaux ?
Bah, pour certains, oui. Ouais. Je veux dire,
Quand
c'est du détail. Après, si la CAF doit faire ce travail, elle aurait dû le faire il y a longtemps. On jouait sur des pelouses innommables. J'ai vu des terrains où les barres transversales font la moitié de la taille légale. Enfin bon, c'est.
Mais même là, il y avait cette histoire de Sierra Leone, Bénin, qui n'a toujours pas été disputée. Mais on avait tout d'un coup réhabilité le terrain de Freetown, alors que tout le monde savait que là-bas.
Oui,
ils avaient déjà en partie fait.
Vous avez raison d'insister. Ils avaient en partie fait ce travail et suspendu un certain nombre de terrains. Et puis, comme d'habitude, les matchs approchant, des matchs vitaux en plus, parce que c'était les 5e et 6e journées de qualif pour la CAN, et puis tout d'un coup, bon, bah, finalement, oui, vous pourrez jouer là au gré des influences des différents présidents. Finalement, tout le monde a pu jouer à domicile. Et un des gros problèmes qui est arrivé, c'est celui de Sierra Leone contre le Bénin et qui a déclenché, je l'imagine, du côté de la CAF, a dit bon, maintenant il faut qu'on arrête de plaisanter et on fait les choses comme il faut. Et on leur donne un peu de temps. Oui, ça c'était pas prévu parce qu'en fait c'est pas pour ça que les matchs ont remporté.
Bah oui, tout le monde se demande,
question. La vraie raison, en fait, c'est mettre au point des tests Covid corrects et arrêter les tricheries. Parce que la CAF s'est aperçue que certains pays osaient, parce que c'est quand même innommable comme méthode, mais osaient finalement tricher.
Sans trop le dire, alors.
Oui, elle ne l'a pas complètement dit, mais elle va le dire. Oui. Elle va le dire. Elle va publier un communiqué dans
les... Parce qu'on se souvient du Chad, le problème notamment de la RDC, et puis là, récemment...
Là, ils sont en train de discuter avec l'OMS, mettre une liste de labos indépendants qui feront enfin les bons tests, etc., de manière à ce qu'on arrête ces tricheries.
Est-ce que ça ne soit pas une arme
Ça devienne une arme. Et comme ils ne sont pas au point pour le faire en juin, ils se sont dit que là, c'était trop important. C'est une épreuve de la FIFA. C'est la qualification à la Coupe du Monde. Mmh. C'est une épreuve de la FIFA et qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'être ridiculisés à nouveau comme ils l'ont été sur Sierra Leone, Bénin. Et ça peut être sur des matchs encore plus importants et pour la Coupe du Monde et sous l'égide de la FIFA. Donc là, la CAF a dit, bon, stop, on fait un mois d'arrêt, on arrête. Et on verra en septembre, on jouera dans des bonnes conditions.
Effectivement, parce que les matchs auraient dû se dérouler donc en gros entre le 5 et le 14 juin. Il aurait dû y avoir deux journées de matchs, des éliminations en vue de la Coupe du Monde au Qatar. Ça fait 21 mois qu'a eu lieu la première journée. Bon, ben on attendra
les
encore un petit peu.
Les préliminaires.
Oui. Les préliminaires. Et maintenant, on en saura plus le 15 mai apparemment à Kigali. Et ça devrait être reporté à septembre et un peu tout décalé.
Non mais ça a déjà été décidé. Le bureau en fait a déjà décidé que ce serait reporté en septembre. Ouais. Et pour cette raison. C'est pas pour les stades. Moi, je pensais aussi que c'était pour les stades. Oui, et donc, j'ai joint quelques personnes en trouvant que c'était un peu abscon comme prétexte.
Oui.
Et effectivement, on m'a expliqué que c'était pas ça.
Merci beaucoup d'avoir informé tous nos auditeurs africains qui étaient sûrement très intéressés.
Il a la petite souris dans au bureau de la CAF. Hein, il est là, hein.
C'est notre petite souris. Merci beaucoup, Philippe Doucet. Merci, messieurs. Merci Dominique. Vous revenez, hein, Dominique, même éliminé, j'espère.
Bien sûr, bien sûr. Bien.
Merci, David.
Vous m'invitez.
Merci beaucoup.
David a été éliminé depuis longtemps. Hein.
7 milliards de voisins.